bonjour, chers amis. Ça me fait plaisir de vous voir et de vous revoir, ceux que je connais depuis longtemps, puis de faire de nouvelles connaissances. C'est vrai que j'aime bien la bande dessinée. Moi, j'aime bien voir les choses avec des images. Il me semble qu'avec des images, on comprend mieux. Alors, j'aime bien les récits de l'Ancien Testament, parce qu'ils nous présentent plein d'images. On y découvre dans l'Ancien Testament des gens qui nous ressemblent. Ils sont râleurs, insatisfaits, souvent impatients. Ils sont aussi soucieux de leur confort. Mais on y découvre surtout aussi l'amour sans limite de Dieu pour chaque être humain. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, lorsqu'on lit la Bible, il est intéressant de pouvoir comprendre certains textes bibliques à la lumière d'autres textes bibliques. C'est mieux si on peut le faire, mais il n'y a pas toujours un lien direct. Et puis, pour le texte qui m'a interpellé depuis quelque temps, enfin ces derniers temps, on dirait que j'étais déjà associé avec vous parce que c'est un texte qui se passait dans le désert. Alors, ce texte sur lequel nous allons méditer, alors nous sommes gâtés parce qu'on en parle 4 fois dans la Bible, 2 fois dans l'Ancien Testament, puis 2 fois dans le Nouveau Testament. Alors je pense, pour qu'on en parle autant, c'est que c'était un texte qui devait être très important. Et en tout cas, il doit attirer notre attention. Le récit de cette histoire est rapporté dans le livre des Nombres. Alors ça tombe bien, puisque vous êtes en train de vous pencher sur ces nombres, sur ces récits-là. Le peuple d'Israël est proche d'entrer dans le pays de Canaan. Il y est bientôt. Et puis l'histoire que je m'en vais lire avec vous, elle se passe après la mort d'Aaron. Aaron, le souverain sacrificateur, est mort. Et puis après, les enfants d'Israël sont partis de cet endroit. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Je ne sais pas si ça marche, mais j'ai enclenché le truc. Oui, ça devrait marcher. Tu vois? Voilà, ça n'a pas l'air de marcher. Pour passer au dia suivant, si on veut. Voilà. À la main. Merci. Je vous lis ce texte. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Je ne sais pas si ça va mieux maintenant. Hein. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux, ou des serpents brûlants, ça dépend des versions, contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche et toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze, avait la vie sauve. Voilà, jusque là pour le texte. Alors, il y a bientôt 40 ans qu'Israël, le peuple d'Israël, se déplace dans le désert, il pérégrine, il tourne en rond. Alors, j'ai une carte pour pouvoir vous montrer ça. Alors, là, ils en sont par là, le mont Hor, il est ici. Ils ont tourné en rond dans la région. Et puis, ils sont tout près d'entrer. Mais sur le chemin, il y a Édom. Édom, c'est des cousins, si on veut, du peuple d'Israël. Alors, Dieu n'a pas permis qu'il livre bataille à Édom, puis Édom n'a pas voulu qu'il passe par leur territoire. Alors, ils ont dû faire un détour. Et ils doivent rebrousser chemin, et puis ils doivent redescendre, et contourner Édom pour pouvoir monter là. Alors, pour eux qui étaient tout proches, c'est comme revenir en arrière. Alors, je pense que c'est à ça qu'ils font allusion quand ils parlent de la mer des roseaux, parce que la mer des roseaux, elle est là. Mais c'est comme si tout d'un coup, ils recommençaient à l'envers leur pérégrination. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mentionné la mer des roseaux. Donc, les Israélites sont fatigués du désert. Ben oui, surtout qu'ils tournaient en rond. Ils n'avaient pas vraiment un but. Pourtant, Dieu les a protégés dans ce désert. Les a nourris en leur donnant de l'eau, en leur donnant la manne, puis des cailles. Et Dieu a empêché leurs vêtements de s'user, leurs souliers de s'user. Vous vous rendez compte? Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de raccommoder ni leurs souliers ni leurs vêtements. Mais c'est un miracle, ça, hein? 40 ans. Hein? Voilà. Tous les vêtements d'enfants, ils pouvaient les repasser à la génération suivante. C'était tout beau, propre, nickel. Il suffisait de l'entretenir. C'était extraordinaire. Mais je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue. Ils ne remarquent même plus les miracles que Dieu leur a faits. Au contraire, ils se plaignent de la monotonie de leur nourriture. Hein, c'est ça qu'on a vu, cette misérable nourriture. Ils parlaient de la manne. La manne, ça ressemblait, je pense visuellement, à des graines de coriandre. Vous avez tous vu des graines de coriandre, vous savez ce que c'est. Hein? Au cas où vous ne savez pas, j'en ai pris ici dans le bocal. Donc voilà, vous avez des graines de coriandre. Seulement les graines de coriandre, elles ont un peu la couleur du désert. Hein? Si elles tombent par terre, on ne voit pas où elles sont dans le désert. Parce que c'est la même couleur que les cailloux du désert. Alors Dieu avait fait ce soit blanc. La manne était blanche. On la voyait mieux comme ça. Et puis elle avait un goût. Ah, je ne vous dis pas, ça nous est transmis dans Exode 16:31. Elle avait un goût de beignet au miel. Ah, ça devait être bon, hein. Elle ne se conservait pas. On a juste conservé une quantité journalière pour une personne dans l'Arche de l'Alliance, dans un vase. Mais sans ça, elle ne se conservait pas. Pour qu'ils apprennent à compter sur Dieu. Mais elle revenait tous les jours. Ça devait être excellent, nutritif, succulent. Mais au bout de 6 mois, toujours la même chose. Mais au bout d'une année, toujours la même chose. Ben non, c'est au bout de 39 ans, toujours la même chose. Moi, je sais pas, moi, j'aurais abandonné avant, moi. 39 ans. Je me serais plaint, mais plus vite qu'eux. Ah, pour moi, ça aurait été aussi très pénible d'avoir tout le temps la même nourriture. Parce que, vous voyez, ils sont comme nous, ces Israélites. Ils regardaient à leur situation dans le désert, puis ils ne voyaient pas d'autres possibilités, pas d'autres alimentations. Alors, ils s'apitoyaient sur eux, et ça, c'est un péché. S'apitoyer sur soi. Dieu veut pas ça. C'est la preuve qu'on n'a plus confiance en Dieu quand on s'apitoie sur soi. Et leur péché les a conduits à la mort. Mais Dieu leur a donné un moyen de délivrance. Il est un peu insolite pour nous, hein, ce moyen de délivrance. On l'a vu. Mais c'était peut-être pas si insolite que ça pour les Israélites. Parce que eux pensaient aux idoles et aux talismans égyptiens qu'ils avaient connus il y a des années. Et ils avaient appris par l'ambiance de ce pays que quand on était malade, on s'adressait à une idole. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi Dieu il a mis ce signe comme ça. Mais peut-être que Dieu désirait les mettre à l'épreuve en les confrontant à la valeur de leur croyance par rapport aux coutumes égyptiennes. Donc voilà un peu la situation exposée par ce récit. Alors ça m'amène à une question. Où portons-nous nos regards? Est-ce qu'on les porte sur nous? pour nous apitoyer ou sur la sagesse de notre bon Père Céleste? C'est ça la question. Alors, selon Paul, l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 4, on pourrait mettre notre confiance dans notre condition. Mais Paul a rejeté cette idée comme une ordure, ça nous est dit dans Philippiens 3, 8. Parce que ne pas faire confiance à Dieu, c'est le défier, c'est le mettre au défi, ne pas lui faire confiance. Pour les Israélites qui l'ont expérimenté, Dieu était comme un rocher solide. Et il pouvait s'appuyer sur ce rocher. Ça ne bougeait pas quand ils étaient dans la difficulté. Et puis on pouvait se mettre à l'abri de ce rocher quand il y avait des difficultés pour être protégé. Et de ce rocher, ils avaient aussi reçu de l'eau. L'eau qui leur garantit la vie. De ce rocher, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et Dieu nous a révélé, par l'apôtre Paul, que cette image, ce rocher, représentait Christ. C'est dans 1 Corinthiens 10:4. Alors l'apôtre Paul nous a donné un commentaire de ce récit, de l'histoire des serpents. Et peut-être que Paul pensait, quand il a donné ce commentaire, aux paroles d'Asaph, le psalmiste. Asaph, il a dit au psaume 78, 18 à 19, « Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu et ils ont dit, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Ça, c'est Asaph qui a dit ça. Alors, l'apôtre Paul, voilà ce qu'il a dit, 1 Corinthiens 10, 9 à 13, « Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc c'est un récit important pour nous. Défier Dieu, c'est en somme, prétendre savoir mieux que lui ce dont nous avons besoin. C'est ça, le défier. C'est donc affirmer que nous sommes plus sages que lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être résigné à notre sort, parce que ça, ce serait du fatalisme. Hein. Ça, c'est Dieu ne veut pas qu'on soit résigné à notre sort. Non, Dieu veut qu'on partage avec lui nos soucis, nos difficultés, nos impressions, et puis qu'on lui demande du secours. D'ailleurs, il l'a dit dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. » C'est ça qui est important, dans une attitude de reconnaissance. Mais ce n'est pas pour lui dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Vous voyez, ce n'est pas notre liste de commissions. Hein? Et pas, on ne prie pas pour dire « Seigneur, voilà ce qu'on aimerait que tu fasses. » Ça, c'est la liste de commission. Hein? C'est notre caddie, ça, journalier. Mais ce n'est pas pour ça. Mais nous ne provoquons pas notre Seigneur, mais réaffirmons notre confiance en sa direction pour nos vies. Vivre par la foi, c'est affirmer que même s'il nous conduit sur des chemins qui nous semblent un peu insolites, eh bien, nous croyons que Dieu sait ce qu'il fait, et puis nous croyons qu'il le fait bien. Mais c'est des fois difficile. Hein? Voilà, la bonne température du chrétien, on dit que c'est le psaume 37,5. 37,5, c'est une température idéale. Hein? Et puis, c'est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Voilà. Comment il agira? Ça, c'est son problème à lui. C'est pas le nôtre. Nous, on sait qu'il va agir. Je dois aussi reconnaître que, comme bien des gens dans ce monde, moi, je réagis un peu trop souvent, comme les Israélites. Hein. On râle d'abord. On réclame, on se dit « Ah, ça n'est pas juste, c'est pas normal. » Notre réaction immédiate est tout à fait naturelle. Mais ce qui est naturel aboutit à la mort. Hein. Vous avez qu'à laisser aller toute chose, ça aboutit à l'amour. Et puis on peut l'expérimenter. Les circonstances au travers desquelles il nous conduit sont contrôlées par son amour pour nous, puis son amour pour le monde. On pourrait même dire que ça, c'est une définition du péché, ne pas faire confiance à Dieu. Voilà, ça résume tout. Mais Dieu, notre Dieu d'amour, n'a pas dit son dernier mot. Alors j'en arrive à la deuxième question que m'inspire ce texte. Où portons-nous nos regards? Alors, par réflexe à nos capacités, à nos habitudes, aux autres, où est-ce que nous cherchons du secours? Pour les Israélites comme pour nous, Dieu se sert des circonstances et il montre qu'il veille sur nous et malgré nous. Alors, pour bénéficier de sa miséricorde, de son aide, il me faut reconnaître que mon orgueil me poussait à provoquer mon Créateur, parce que c'est ce que les Israélites ont fait. Et ils sont venus vers Dieu en disant « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Dieu. » Dieu attend que l'on reconnaisse notre orgueil, notre manque de foi, pour nous donner la solution. Pour le peuple de Dieu de cette époque, la solution, c'était un serpent mort symbolisant le péché du peuple ayant subi son châtiment. C'était ça. C'est l'image de la solution unique trouvée par Dieu, démontrant à la fois sa justice et son amour pour les humains. Je dis que c'est une image parce que le serpent symbolique de ce récit, c'est un serpent en bronze. C'était mort. Il n'avait aucun pouvoir de guérir qui que ce soit, ce serpent. Ce ne pouvait être qu'une allégorie, car c'était une prédiction de ce qui allait arriver une fois pour toutes en Palestine, à peu près 1500 ans plus tard. En effet, voici ce que dit Jésus lui-même de lui-même. Jean 3, 14 à 18. « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc le serpent de bronze est une image qui annonçait l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Alors c'est la seule solution pour tous les humains de tous les temps. Et voyez dans ce que Jésus a dit, « Dieu jugera les humains sur le seul critère de leur adhésion ou de leur refus de la solution » que Dieu a préparé pour chacun. Alors, il nous connaît bien et il a préparé tout ce qu'il faut pour que nous soyons délivrés de l'amour, parce que le péché conduit à l'amour. Alors, la solution pour les Israélites, elle était à la portée de chaque Israélite, puisque on demandait à chacun d'entre eux de ne faire quoi que ce soit, rien. Il devait seulement regarder le serpent. Il devait seulement regarder ce serpent qui rappelait que le châtiment du péché est accompli sur le bois que Moïse avait dressé. Et Jésus nous dit que cette image se rapportait donc au salut qu'il nous offre. Un seul regard suffit pour être délivré, pardonné. Alors, lorsqu'on chute ou qu'on rechute tout au long de notre chemin, c'est pas compliqué. Un seul regard vers Jésus suffit pour qu'il nous délivre de nos peurs, de nos insatisfactions, pour qu'il nous relève. Et vous remarquez que c'est pas une démarche difficile, comme c'était pas non plus pour les Israélites. Il fallait pas se déplacer. il fallait pas de pèlerinage, ni faire quelque chose, ni apporter quelque chose, ni donner quelque chose. Non, seulement croire ce que Dieu a dit et regarder dans la bonne direction. Et notre Sauveur, qui lui connaît bien le fond de nos pensées à chacun, il répond, il nous apporte de l'aide. Il est tout près de nous, lui, et il attend juste notre regard pour nous relever. C'est extraordinaire. Alors, mon expérience montre que parfois on tarde à abdiquer devant Dieu et à regarder à lui. On cherche des tas de solutions avant. Et ce retard, c'est autant de temps que, où on n'est pas heureux. En tout cas, j'étais pas heureux jusqu'à ce que je regarde à lui. Mais je sais que on n'a pas que des jours enchanteurs dans ce monde. Hein. Des fois, il y a des jours où c'est difficile. Mais on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas les plans de Dieu, ni pour nous, ni pour notre entourage. Alors, on peut regarder à Dieu et puis lui faire confiance parce qu'il a la sagesse infinie. Et puis, c'est lui qui trace notre chemin. C'est ça qui s'appelle le regard de la foi. Regarder à lui. Hébreux 12.2 nous dit « Persévérons en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. » Persévérer en ayant les regards sur Jésus. Parce qu'il y aura toujours des problèmes, des difficultés, mais nous sommes appelés à regarder Jésus. À ne pas regarder des sommets parfois élevés de nos difficultés, parce que des fois c'est grand, ça nous bouche un peu la vue, mais vers Jésus tout proche, par qui nous avons été créés et qui sait toute chose. Lui, il nous aime plus que tout. Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. » Ce n'est pas en regardant les montagnes qu'on va trouver le secours, mais c'est en regardant l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait les montagnes. Maintenant, je pense qu'on a bien compris ça, le sens de cette expérience des Israélites. Et pourtant, la Bible nous donne encore une mise en garde avec ce récit. Alors je repose encore une fois la question. Où portons-nous nos regards ? Vers notre bon Père Céleste, ou bien dans le flou des automatismes religieux? Parce qu'il existe un texte qui se rapporte à ce récit qu'on trouve dans la Bible dans 2 Rois 18. Le roi Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Tiens, il était toujours là, celui-là. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance, donc Ézéchias, dans l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent. Aucun ne fut pareil à lui, même pas David. Vous voyez que c'était quelqu'un de bien. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il n'a pas forcément fait que des choses bien, mais il s'est laissé diriger et il a réussi. Alors, pendant 780 ans à peu près, voilà que les Israélites avaient gardé ce souvenir des serpents dans le désert pour rappeler à chacun la glorieuse et miraculeuse intervention de Dieu. Ils avaient gardé ce souvenir. Ainsi, les enfants et les enfants de leurs enfants sauraient qu'il fallait porter les regards sur Dieu pour avoir une délivrance. Et ce serpent devait le rappeler. Mais voilà, avec le temps, les choses se sont détournées de leur but premier. Les Israélites ont l'air maintenant de porter le regard sur le serpent lui-même et pas sur Dieu. Puis ça, ça nous arrive des fois aussi. Hein. Il y a un vieil adage chinois, je ne sais pas, vous en souvenez peut-être, qui est plus que jamais d'actualité ici. Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Hein. Mais là, ils faisaient ça, les Israélites. Le serpent montrait la grâce de Dieu, et puis les Israélites, ils voyaient le serpent. Ce serpent ne pouvait rien apporter par lui-même, alors Ézéchias, ou celui qui l'a nommé ainsi, parce que je ne sais pas si c'est Ézéchias qui a donné ce nom, il le surnommait Nehushtan. C'est un mot hébreu qui pouvait étymologiquement provenir des mots serpent et bronze, mais qui pouvait aussi signifier morceau de bronze. Alors de nos jours, Ézéchias pense qu'il l'aurait nommé bout de ferraille. Voilà, il y a ce bout de ferraille, puis vous l'adorez, c'est pas logique. Alors, nous, on pourrait dire, ah, quand même, ces Israélites, hein, ces descendants d'Israélites, ils sont bêtes d'avoir des réflexes pareils. Ça, c'est... Mais aujourd'hui, c'est un problème aussi important pour beaucoup de chrétiens, quand même. Je sais pas, on trouve dans la nature des croix, surtout dans les pays catholiques. Mais on en trouve à beaucoup de places. Et puis en Bretagne, il y a des beaux calvaires, croisés des chemins, c'est magnifique. Ils servent à rappeler et à proclamer partout l'amour que Dieu a pour nous. Jésus est mort sur une croix portant nos péchés. Il faut que tout le monde le sache et on met ça pour qu'on s'en rappelle. Pourtant, combien de gens ne regardent qu'à l'objet par superstition et ne connaissent pas leur Sauveur? Et la croix, qui était un instrument de supplice, est devenue un bijou, servant de symbole de notre foi. Mais combien de personnes portent une croix et pourtant ne sont pas au bénéfice de l'œuvre rédemptrice de Jésus, hein? Ils attachent un pouvoir mystérieux à l'objet, qui n'en a pas par lui-même, en oubliant ce que cet objet représente. Mais il n'y a pas que les croix, hein? Il y a des gestes rituels faits par habitude, ou par crédulité aussi, qui font référence à la crucifixion, comme le signe de croix. Les catholiques font un signe de croix. Ça fait référence à Jésus, à la Trinité. C'est apparu au IIe siècle dans l'histoire de l'Église. Dessinant sur soi-même une croix, symbole de la passion de Christ, cette personne fait profession de foi chrétienne, plaçant sa vie sous le signe de la rédemption du monde par le Christ. Voilà, ça c'est ce que normalement ça représente. Alors c'est bien. Traditionnellement, ce signe accompagne toujours une bénédiction religieuse, parce qu'on ne peut bénir que en faisant référence à l'œuvre de Christ. Mais voilà que certains, malheureusement, le pratiquent seulement pour obtenir une bénédiction. Alors ça, c'est dévié du sens premier. Mais il y a d'autres pratiques aussi qu'on voit. Par exemple, croiser les doigts, ça fait référence à la croix, c'est d'origine religieuse en Angleterre au Moyen-Âge. Il s'agit d'un signe représentant la croix emblématique du christianisme, censé protéger le fidèle superstitieux du malheur. Voilà. Donc c'est devenu une superstition. On fait le signe de croiser des doigts par superstition pour éloigner le malheur ou s'attirer des bénédictions. Il y a encore le toucher du bois. Hein? Tout le monde dit « Ah, je touche du bois !» Même des fois nous, parce qu'on copie les autres. C'est une référence au bois de la croix. Et les chrétiens disaient là que par l'habitude de toucher du bois était une forme de supplication ou de prière qui permettait de se protéger de l'adversité. Mais voilà, que ça c'était encore une superstition importée parce qu'on trouvait ça avant le christianisme. Mais les chrétiens ont fait leur cette superstition. Donc voilà des gestes superstitieux appris des parents, des amis, de l'environnement. Mais les gens n'ont aucune idée de ce que ça représente. Alors bien sûr, ce dont on vient de parler, on le voit faire par les autres, mais bien évidemment pas les chrétiens évangéliques. Ça, c'est sûr que nous, on n'a pas ces superstitions-là. Pourtant, réfléchissant bien, on en a peut-être des pieux réflexes qui sont devenus aussi un peu pareils. Voyez, un jour, on fait une expérience avec le Seigneur, puis cette expérience est bénie, alors on en garde un souvenir, puis après on se réfère au souvenir, ou bien on a appris de bonnes habitudes, puis maintenant ce n'est plus que des réflexes. Alors quand les bonnes habitudes ont perdu l'idée, l'essence du contenu, ça devient des réflexes qui ne sont pas mieux que ça. Les enfants apprennent ces réflexes avec leurs parents, ils perpétuent l'idée. Alors je me suis dit que ce serait bien de temps en temps d'analyser le contenu de nos conventions, puis de nos coutumes familiales, d'église et tout cela, pour voir si vraiment ce qu'on fait par habitude, c'est parce qu'on fait référence à Dieu, ou bien on fait comme les Israélites avec ce serpent. Voyez, par exemple, je vous donne un exemple, on doit lire notre Bible tous les matins. C'est bien, c'est même très bien, c'est recommandable. Je recommande à tout le monde de lire sa Bible tous les matins. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors là, on a peut-être pris le réflexe, puis on ne sait plus pourquoi on le fait. On a oublié que c'est parce que Dieu voudrait s'entretenir avec nous. Il voudrait nous parler, alors il faut lui laisser le temps de le faire. Alors en 3 minutes, je crois qu'on n'arrive pas à laisser le temps à Dieu nous parler. Alors peut-être qu'il vaut mieux pas avoir ce réflexe le matin, mais à un moment où on peut écouter un peu plus longtemps notre Dieu. Il y a peut-être un meilleur moment pour nous. Oui, on pourrait s'amuser à en chercher d'autres réflexes comme ça, je suis sûr qu'on en trouverait plein. Mais voyez-vous, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans cela le problème. Parce que tout arrive lorsqu'on cultive une certaine religiosité, et puis Dieu ne nous demande pas d'être des humains religieux. Voilà, c'est le cas de toutes les religions. Dans toutes les religions, on trouve de la religiosité, mais Dieu ne demande pas ça. Dieu désire cultiver une relation avec nous. Il désire nous parler, il désire être proche de nous, et il désire partager notre vie, puis que nous, on puisse se référer à lui, lui faire confiance. Il désire être simplement proche de nous. Pas seulement 10 minutes à un moment dans la journée, mais tout le temps. Quand on travaille, il veut être proche de nous. Quand on s'amuse, il veut être proche de nous. Quand on regarde un film, il veut être proche de nous. Puis quand on dort, il est aussi proche de nous. Tout le temps, pas seulement 10 minutes par jour. Psaume 36, 7. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Voilà, c'est en cultivant une relation proche qu'on apprend à connaître quelqu'un et puis qu'on peut lui faire confiance. Parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas bien faire confiance. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on sera heureux, parce qu'on apprend à le connaître. Et puis lui, il nous connaît mieux que nous, n'importe quel humain peut nous connaître. Alors c'est lui qui peut le mieux choisir aussi ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons besoin pour vivre heureux, dans un bonheur à long terme. Alors, je pense qu'il faut qu'on regarde notre relation avec Dieu comme primordiale, c'est ça qui est important. Lorsqu'on est tout proche de la personne qui nous aime même passionnément, les circonstances et nos besoins deviennent un peu plus accessoires, d'autant plus que souvent ce sont des sujets de confort. Voyez, quand on a besoin de souvenirs, d'objets qui nous rappellent quelqu'un, c'est qu'on est loin de cette personne. On n'a pas besoin de souvenirs qui nous rappellent quelqu'un quand on est à côté. On éprouve le besoin de fétiches lorsqu'on manque d'assurance. On a peur de passer à côté d'une réussite ou de rater quelque chose qui pourrait être important lorsqu'on est loin de notre Père Céleste. Mais toutes ces choses sont devenues moins importantes lorsqu'on est en présence permanente avec celui qui nous aime d'un amour éternel. Il a tous les pouvoirs de nous donner n'importe quoi, s'il le juge bon, pour nous ou pour son œuvre. On n'a même plus tellement à craindre l'avenir, puisque notre bon Père Céleste y est déjà. Il est déjà dans notre avenir. Alors, on est avec lui. On n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. On ne sera jamais séparé de lui. On peut vivre donc pleinement nos journées en n'étant pas distrait par les soucis du lendemain. Il y a déjà le lendemain. Même si on avance dans le brouillard, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui arrive. Il y a un chrétien, Eddie Carswell, qui a écrit un cantique que j'ai entendu chanter par Baby Mason. C'est en anglais. Alors je vous traduis le refrain. Dieu est trop sage pour se tromper. Il est trop bon pour être méchant. Alors si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si tu ne vois plus sa main, fais confiance à son cœur. Il est à côté de nous, il nous aide. C'est un beau cantique, mais j'ai les paroles en anglais, j'ai traduit. Voilà, on peut accepter chaque jour tel qu'il se présente en nous réjouissant de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Moïse l'a d'ailleurs chanté. Une fois qu'ils avaient passé la mer Rouge, il a chanté dans un cantique, Exode 15-13, « Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple, par ta puissance, tu le dirigeras vers ta sainte demeure. » C'était tout le programme. Mais ils avaient un peu oublié. Alors confions-nous dans la souveraine bonté de notre Dieu qui nous dit, Jérémie 31-3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est ça qui est essentiel. Alors nous venons à l'Église, mais pas pour rencontrer Dieu, puisqu'il habite en nous. Il est toujours avec nous. On n'a pas besoin de se déplacer pour le rencontrer. Il est toujours là où nous sommes. Mais nous venons à l'Église pour célébrer ensemble sa gloire et son amour, et puis pour profiter de la communion fraternelle des uns et des autres, pour s'encourager, pour avancer avec le Seigneur. Alors n'oublions jamais cette parole de Jésus dans Matthieu 28-20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'y a pas un jour où il ne sera pas là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui est essentiel. Alors, conclusion, où portons-nous nos regards ? Que ce soit vers notre Dieu, en nous en remettant totalement à lui pour chaque instant de notre présent et de notre avenir. Prendre conscience de sa présence nous fortifie. Alors, il faut qu'on profite à tout moment de ces moments, à tout moment de sa présence. On peut lui parler à tout moment. Souvent mentalement, hein, si les circonstances ne se prêtent pas à parler à haute voix. Oui. Comme Alain Audercet, si on est dans la forêt, on peut parler à haute voix, mais sinon, si on est au travail, c'est peut-être mieux de parler dans sa tête, hein. Mais on peut parler à tout moment à notre Dieu. Et par notre état d'esprit aussi, on peut montrer qu'on est confiant dans sa souveraine et bienveillante volonté, et pour laquelle on ne pourra jamais lui dire assez notre reconnaissance. Hein. On peut lui dire merci. Alors, je vous propose de prier. Père Céleste, tu vois que nous nous apitoyons trop facilement sur nous et nos circonstances lorsque tout ne marche pas comme nous le souhaitons. Pardonne-nous nos réactions naturelles et aide-nous à te faire totalement confiance. Merci Seigneur Jésus, toi qui as pris notre péché sur toi et qui en a subi le châtiment à notre place, nous donnant ainsi la possibilité de vivre en ta présence pour toujours. Aide-nous à porter nos regards sur toi, constamment, pour apprendre à te connaître de mieux en mieux, afin d'approfondir notre relation avec toi. Merci pour le Saint-Esprit aussi, qui nous défend et nous rassure dans les combats de notre marche chrétienne, surtout lorsque nous avançons dans les difficultés, dans le brouillard. Seigneur, c'est vrai, nous désirons nous reposer entièrement sur toi, sachant que tu nous aimes, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tu es miséricordieux et ta bonté est sans limite pour nous. Tu nous guides dans notre parcours terrestre et tu es trop sage pour te tromper. Alors nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Nous te disons toute la reconnaissance de nos cœurs parce que nous pouvons rester constamment en ta bienheureuse présence, sans crainte de l'avenir. Que notre vie puisse te glorifier. Amen.